Ces gens sont des crapules. Ils volent, ils violent les tombes. Ils vont même dans les cliniques pour tuer les gens pour leur prendre leur ADN. Les Américains sont le plus fous. Ils veulent le plus d'ADN de l'illustre possible. Ces ADN serviront pour les ordinateurs, pour les mettre dans le corps d'autres hommes et même dans des musées. Oui, l'on fait des musées d'ADN où il y a dans un bocal le nom de la personne avec au-dessus du bocal le portrait de la personne. Les gens pensent que l'ADN, c'est la personne même, son essence, son intelligence. Avoir la personne que l'on idolâtre, estimée ou que l'on adore. L'on met chez soi son ADN. Par exemple, de Diana, dans un coin que l'on transforme en hôtel, avec photographie de la personne, cierge, etc. Le marché ADN marche très fort. Il sert aussi à la science biotechnique, au remplacement ou aux greffes d'organes, etc. C'est devenu le produit le plus précieux de la Terre. Les ADN demi-lustres sont cotés à la bourse. Bien entendu, le groupe Gentoo est à la pointe de tout ça. Et c'est même lui qui a lancé cette chose. D'ailleurs, ne lit-on pas sur les cartes de visite du président directeur général des entreprises du groupe, groupe Gentoo, le seul groupe qui a Dieu à son conseil d'administration. Les Américains sont furieux et veulent rattraper leur retard. Pour cela, ils font de plus en plus d'ADN. Une loi a été décrétée au Sénat américain. C'est que tous les Américains de race blanche doivent faire don de son ADN à l'État américain. Et pour avoir le plus d'hommes, femmes illustres, présents et passés. Mais comme le passé en Amérique, c'est une chose... À part les hommes d'affaires, ça ne va pas bien loin. Alors, on va en Europe prendre de l'ADN d'hommes illustres, rois, etc. Diana a été la première personne à être prise. La reine d'Angleterre a dit tout de suite oui. Ils ont formé des hommes, des commandos, pour aller voler dans les cimetières l'ADN des cadavres. Ça fait entre différents commandos, car des cadavres sont trop cotés. Alors, une guerre sans merci se fait. Et le matin, les gens retrouvent les cimetières troués de balles, des corps à terre et les tombes ouvertes.
Nous avons l'intention de nous marier. Entre nous, je m'en doutais. Je voudrais que tu sois mon témoin. Avec joie. Mais vous n'allez pas vous marier tout de suite.
Un commando de femmes très belles est envoyé en France pour séduire des hommes illustres pour leur prendre leur ADN. Ils font la connaissance de ces personnes, la plupart du temps dans des soirées, pour les séduire, se laissent séduire. Et puis vont passer la nuit chez l'homme.
C'est quand même plus gai ici qu'à Alsace. Tu ne vas pas retourner là-bas. Ma place est auprès de mon père. De toute façon, vous nous conseillez fortement de retourner en Alsace.
Elles font l'amour. Mais comme une mante religieuse. Elles les mangent, plutôt leur pain, leur ADN. Dans le laboratoire Riquin, on a cultivé durant des années des chimères. Ce sont des hommes avec des ailes d'oiseaux. Ils n'ont que des ailes en plus et tout le reste est humain. Ces êtres sont blancs, très pâles, blonds, cheveux qui ondulent, très minces, grands. Ils ne parlent pas, mais ont des yeux très expressifs. Une deuxième espèce, ce sont des oiseaux avec des têtes d'hommes. Ces chimères ont été fabriquées en état fœtus. On a pris des fœtus humains chez des femmes qui voulaient avorter et on a fait des transformations avec des fœtus d'oiseaux. Comme ça, on a fécondé artificiellement. Une fois nés, on les a nourris au biberon. On leur a appris à voler, marcher et obéir. Leur cerveau est simple et surtout instinctif. Ils ne sont jamais sortis du laboratoire où ils ont un lieu spécial en dehors des autres. Une espèce de grande pièce avec un plafond très haut en forme de verrière. Des perchoirs géants, mais aussi des lits, des tables, des chaises, puisqu'ils sont à moitié hommes et même plus hommes qu'oiseaux. On leur a appris à voler. Ils sont 20, blonds, d'une peau très blanche, nue, avec d'immenses ailes blanches sur le dos. Ils sont beaux, majestueux, un visage d'une très grande pureté. Le corps est lisse, sans poils ni ailes. La deuxième catégorie, celle des oiseaux à tête d'homme, ils vivent plus qu'en oiseau qu'en homme. Ce sont des espèces de sexe masculin, mais comme ils ont été faits d'après des fœtus humains, ils peuvent se reproduire en fécondant des femmes. Étroitement surveillés, car on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire en liberté. Des infirmières, des médecins les soignent, les nourrissent, les éduquent, les lavent, etc. Cette immense volière où ils sont avec de grandes baies vitrées qui donnent dans le parc et le ciel pour leur montrer le monde, car ces chimères seront, pour certains, pour faire des travaux d'équilibriste et de secourisme dans les airs. On leur a donné un temps de vieillissement rapide pour qu'ils deviennent adultes très vite et leur durée de vie est de 70 ans. Mais ils vieillissent d'un coup et restent longtemps en forme. En 5 ans, ils sont devenus adultes. La nuit, ils dorment dans des lits, sauf les chimères à corps d'oiseaux. On les laisse seuls, la porte fermée. Ils sont couchés tôt, à 9 heures. Un violent orage se fait, un orage terrible, tonnerre, éclair, pluie torrentielle. Cela réveille toutes les personnes. Jamais on n'avait vu une chose pareille. Les rues sont vite inondées. Les caves, la Seine déborde en quelques minutes. les éclairs, les tonnerres, terribles. Les cheminées tombent, les antennes de télévision aussi. Les gens qui étaient dehors se sont tout de suite abrités dans les allées. Mais quelques-uns n'ont pas eu le temps et ont été noyés par l'eau qui est tombée comme une grande marée. Des chiens, des chats, des rats, des oiseaux sont noyés aussi. Des gens qui habitaient dans les caves ont été noyés. Personne ne peut sortir. Et les secours sont obligés d'attendre, car ils ne peuvent sortir eux non plus. C'est comme s'il y avait eu une tornade. Un éclair, un coup de tonnerre et... Les vitres de la volière des chimères se sont brisées. Les chimères étaient dans leur lit, se retrouvent sur eux des déchets de glace, l'eau du ciel. Certains sont blessés, ils sont apeurés devant ce spectacle de fin du monde. Blessures, sang, glace, brisée, immense éclair, elles paniquent et prennent leur envol. Elles volent, volent dans la volière, dans tous les sens, s'accrochent, se cognent dans ce décor de fin du monde, au milieu des débris de glace, de la foudre, des éclairs. Elles paniquent, tremblent et volent jusqu'en haut et s'éloignent dans le ciel plein d'éclairs. Elles volent, volent, volent. Volent droit devant elles. Elles sont enivrées, ont peur du tonnerre, des éclairs et de tant d'espace. Elles volent dans le ciel de Paris. Elles volent dans le ciel de Paris. Elles volent au-dessus des toits de Paris et certaines s'arrêtent de voler et atterrissent sur les toits. Une femme est dans son lit. Une jeune femme blonde est éveillée et a peur de l'orage. Elle voit de sa fenêtre les éclairs. Un énorme coup de tonnerre. S'est brisé. Un homme tout blanc avec des ailes saute dans la chambre. Elle est comme paralysée. Les éclairs, le tonnerre continue. La chimère s'approche du lit. Il déploie ses ailes et se penche sur elle. Elle est comme hypnotisée. Et d'un geste, il lui soulève le drap. D'une main, il lui soulève sa chemise de nuit et l'enveloppe entièrement. C'est une chose foudroyante. Se sent prise, envelée par quelque chose de primaire. Et qui vient d'un autre monde, d'un monde imaginaire. Et en plus, c'est un homme, c'est un rêve, un fantôme. Jamais elle n'a autant ressenti les choses. Elle sent à elle ce regard froid et beau. Une fois que la chose est finie, il déploie ses ailes. Elle ouvre les yeux et voit ce regard qui n'exprime rien et tout. Il se soulève, elle veut le retenir, mais lui se lève, va à la fenêtre et s'envole. C'est le matin, l'orage est fini, le ciel est bleu. Thank you. dans les rues, loups se retirent en laissant des cadavres, des saletés. Les hommes de la ville ramassent les cadavres et ce sont des cadavres de clochards, d'animaux, pas grand-chose donc. L'orage a aussi fait beaucoup de dégâts, des vitres brisées, chemisées, tuiles, caves, magasins inondés, etc. Antennes de télévision aussi. Mais la chose la plus surprenante qui s'est passée, personne ne l'a vue. Ou presque personne. C'est d'avoir mis dans la nature deux espèces, des espèces moitié homme, moitié oiseau. Très vite a entendu, il a appris la catastrophe, il est allé voir. Verre brisé, sang, tout est cassé et les pensionnaires envolés. Merde, c'est la catastrophe. Ce qui l'embête le plus, c'est qu'il est obligé d'aller en parler à Danfort. Est-ce si grave que ça ? Riquin lui dit : oui, malheureusement, on ne sait pas vraiment ce qu'ils peuvent faire. Ils sont comme des animaux sauvages. Ils sont lâchés dans la ville. L'enfant lui dit : à part voler, que savent-ils faire ? Ils ont besoin de nourriture et sont carnassiers. Ils ont besoin de chair fraîche. On ne sait pas, ils peuvent attaquer pour se nourrir. Des chiens, des chats. Vous en avez combien ? 20 hommes oiseaux et 10 oiseaux hommes. Le plus dangereux, ce sont les hommes oiseaux, car eux peuvent vraiment s'attaquer aux hommes et même s'accoupler. L'enfant lui dit : des femmes feront des œufs alors ? Non, des hommes avec des ailes n'est pas bien grave. Alors, que faut-il faire ? Les rattraper, mais ce sera difficile, car ça vole et haut. Et puis, avec des avions ? L'enfant lui dit : il faut être discret, ne pas effaroucher les gens. Ne faisons rien, attendons de voir. Peut-être qu'ils vont disparaître et vivre dans une forêt profonde. Riquin lui dit : à Paris ? Non, mais ils peuvent s'en aller plus loin. Et puis 20, ce n'est pas beaucoup. Et si les gens les voient, on va les prendre pour des fous. Ne faisons rien. Après, nous verrons. Riquin lui dit : ils risquent, c'est de faire des ravages. Ils sont malgré tout encore sauvages. Et enfin, ce qui m'intéresse, c'est comment ils vont se comporter avec les hommes, comme des oiseaux ou comme leurs semblables.
«
Paris et ses environs repensent les plaies qu'a fait le violent orage de la nuit dernière. Et petit à petit, la vie reprend, pour la plupart, une vie de misère. Un petit garçon de 8 ans, Adrien, blondinet, visage encore poupon, yeux bleus et lèvres gourmandes, est réveillé par sa maman, une belle jeune femme dans les 30 ans, mince, blonde, habillée d'une robe beige. Elle lui a donné des baisers pour qu'il se réveille. « Il est l'heure, mon chéri. Il est temps de te lever pour aller à l'école. » Adrien se tend au cou de sa mère. Elle reçoit ce petit corps tout nu, tout chaud, qui sent la douceur. « Maman, j'aimerais rester avec toi. » Elle lui sourit, lui caresse le dos et lui dit « Mais non, mon chéri, tu ne peux pas. Il faut que tu ailles à l'école pour apprendre beaucoup de choses. Comme cela, lorsque tu seras grand, tu auras une bonne place et je serai très fier de toi, mon petit amour. » Elle le berce un moment et lui dit « Allez, ton petit déjeuner est prêt. » Il se retire. L'enfant soupire. Elle se lève et lui dit « Allez, lève-toi, je t'attends à la cuisine. Tu veux pas me laver ? Non, tu es trop grand maintenant. Allez, ne fais pas le bébé. » Et elle sort de la chambre. L'enfant se lève. Mais ses pantoufles, pour aller dans la salle de bain. Sorti de la chambre, il va dans la salle de bain. Il entre dans la baignoire et prend une douche vite fait. S'essuie. Et sort de la salle de bain pour aller à la chambre. Là, dans la chambre, il s'habille pour aller à l'école. Chemise blanche. Pantalon marine, souliers noirs, puis il sort de la chambre pour aller à la cuisine, retrouver sa mère. À la cuisine, il s'assoit à table pour prendre son petit déjeuner. Elle lui sert son cacao. Des tartines de pain grillé et du miel. Adrien est fils unique et vit seul avec sa mère. Le père est mort. Il était en voyage d'affaires. Et l'avion qu'il ramenait a pris feu en vol. Sa mère lui demande « Qu'est-ce que tu as comme leçon ce matin ?»« Maths, grammaire et poésie. » Elle lui dit « Ça passera très vite, tu verras. » »« Après, je viendrai te chercher. » »« À midi, je vais te préparer des pâtes et du poisson. » »« Ça te va ?»«
Oui. »
Une fois qu'il est fini de manger, elle lui dit « Allez, il va falloir partir maintenant. » Ils sortent de la cuisine. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.